Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Hugo Micheron.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour venir nous éclairer. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du djihadisme. Vous revenez de 2 ans dans une unité, dans une université américaine. Vous êtes aujourd'hui l'un des regards probablement les plus précis, solides, parce que vous avez étudié la question, pas seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe, sur la question du djihadisme. Vous publiez « La colère et l'oubli », c'est chez Gallimard, « Les démocraties face au djihadisme européen ». Le plus dangereux, dites-vous, c'est l'oubli. Et nous y sommes dans cette période d'oubli. On veut croire peut-être que le terrorisme, c'est fini. On n'a pas trop le temps d'y penser, on a d'autres chats à fouetter. Et puis, tant que ça tient, on se rassure. Il y a pourtant des signaux, vous allez nous le dire dans un instant, qui montre un djihadisme qui reste actif, mais avec d'autres outils que l'attentat. L'attentat, vous le dites, ce n'est que la fin du film. Ouais. Vous nous appelez à nous réveiller. Est-ce qu'il faut donc comprendre, Hugo Micheron, que le terrorisme islamiste et le djihadisme ne sont pas derrière nous ?
Oui, en fait, ce qu'il faut déjà distinguer, c'est précisément ça, c'est-à-dire le terrorisme d'un côté et le djihadisme de l'autre. Le terrorisme, c'est un moyen qu'utilisent les djihadistes à une fin précise, qui est de terroriser les sociétés ou les régimes qu'ils déclarent comme ennemis. Mais c'est pas le seul moyen qu'ils utilisent, et il y a un djihadisme en dehors des attentats. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Et si, en fait, on considère que le djihadisme, ce n'est que du terrorisme, eh ben, en fait, quand la menace terroriste diminue, on pense que le djihadisme est en train de disparaître. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Le djihadisme prend d'autres formes. Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est comment il s'est construit sur 30 ans et à l'échelle de différents pays européens. Donc de reprendre vraiment le plan d'ensemble, et on voit que sur ces 30 dernières années, il y a eu 3 cycles, un par décennie, et à chaque décennie, il y a une période que j'appelle de marée haute, c'est-à-dire une période où les attentats deviennent le mode d'action privilégié des djihadistes, mais aussi, et c'est peut-être là que tout se joue en fait, des périodes de marée basse, où en fait les djihadistes, parce qu'ils sont emprisonnés, parce qu'ils ont perdu sur le plan militaire en Syrie ou en Irak, en fait sont moins en capacité d'action pour passer à l'acte terroriste, mais par contre recrutent, diffusent leurs pensées, publient tout un tas de contenus sur Internet ou dans des livres. Et ça, c'est à ça, à mon sens, qu'il faut s'intéresser, sinon on s'expose en fait à un rebond.
On est dans une forme de déni, et pourtant, et on va le voir, y compris dans l'actualité la plus récente, il y a des signaux, ouais, des signaux qu'il faut prendre au sérieux. Combien y a-t-il de prédicateurs islamistes influents aujourd'hui ? Alors évidemment, vous vous intéressez à toute l'Europe, mais aujourd'hui, je veux surtout vous interroger sur la France. En France, aujourd'hui, des prédicateurs influents, peut-être sur le terrain, dans les territoires, mais aussi sur les réseaux.
Oui, alors les chiffres sont extrêmement compliqués à recouper, parce que déjà, il faudrait savoir ce qu'on appelle en fait un prédicateur. Moi, mon sentiment, aussi sur la base des entretiens que j'ai réalisés auprès de djihadistes, etc., c'est que potentiellement, tout djihadiste est un recruteur et un recruté. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la personne à qui il est confronté, il va plutôt être dans l'apprentissage de la doctrine, ou plutôt en train d'essayer de recruter des gens. Donc, si on doit répondre précisément sur les chiffres, il faut tout décomposer. Donc, il y avait 6000 Européens qui ont été impliqués dans les réseaux des djihadistes en Syrie sur la décennie passée. 6000, c'est beaucoup. C'est fois 100 par rapport au nombre d'Européens impliqués dans les réseaux djihadistes 20 ans plus tôt. Donc, on voit là qu'il y a une accélération du phénomène djihadiste. Encore une fois, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé entre les périodes d'attentats pour pouvoir comprendre pourquoi il y a eu cette accélération. Et c'est ça que moi, j'essaye à mon humble mesure de faire. Mais il n'y a pas que des djihadistes impliqués dans des réseaux terroristes, encore une fois. Il y a aussi, sur Internet, tout un tas d'individus qui vont diffuser de la propagande. On a vu aussi un phénomène de recrutement très important dans les prisons sur les 20 dernières années, et à l'échelle, encore une fois, de toute l'Europe. Et ça aussi bien dans les prisons françaises que dans d'autres pays qui ont des traditions pénitentiaires totalement différentes. Je pense par exemple au Danemark.
C'est d'autant plus intéressant. Alors ça, franchement, je fais une petite parenthèse, Hugo Micheron, mais comme votre étude, elle est européenne, on se rend compte que là, presque la culpabilité française, ou au lendemain de Charlie Hebdo, au lendemain de certains attentats, on s'est dit, et certains politiques, y compris Emmanuel Macron à l'époque, avaient eu la tentation de dire, il y a un terreau, il y a une responsabilité de l'État français, on n'a pas su intégrer, peut-être qu'on n'a pas su leur donner des jobs, peut-être que c'est une réponse économique. Vous regardez les autres pays, dit, il n'y a pas de spécificité française, il n'y a pas de réponse économique. C'est une question qui dépasse très largement les frontières.
Oui, je vous remercie de poser cette question parce que là, c'est un point qui est vraiment très important. En fait, quand on regarde les pays européens touchés par le phénomène djihadiste, et là, la France a été très touchée, mais c'est loin d'être la seule. En proportion, le Danemark a été plus touché, la Belgique, la Suède ont été plus touchés par le phénomène que nous. Donc, encore une fois, c'est important d'avoir cette vision européenne. Ce qu'on voit, c'est que dans chacun des pays touchés en Europe par le phénomène djihadiste, tout le débat public a eu tendance à réduire aux spécificités du pays. Donc en France, on a dit oui, en fait, on a des attentats.
C'est à cause de la laïcité.
La République, l'histoire coloniale.
On a culpabilisé.
On a culpabilisé et surtout, on a vu plus que ça. Donc ça a donné des gens qui disaient oui, c'est de la faute de la laïcité et d'autres qui disaient non, heureusement qu'on a la laïcité, sinon ça aurait été bien pire. Mais au Danemark, ils ont fait la même chose avec la question de l'égalitarisme, en Allemagne, du différentialisme culturel, en Grande-Bretagne, etc. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces pays ont été touchés par le même phénomène qui s'est diffusé dans les mêmes conditions et pendant la même période et parfois même par les mêmes acteurs. Et c'est pour ça que moi je reviens à l'origine, c'est-à-dire aux années 90. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le djihadisme s'est implanté par des individus qui ont choisi un certain nombre de quartiers et qui ont commencé par des microcosmes. C'était tout petit. Au début, c'était
des dizaines de personnes.
Des dizaines d'individus, mais qui ont, et c'est là où c'est très important de distinguer le djihadisme de l'acte terrorisme en lui-même, parce que ce qu'ils ont fait au début, c'était pas du terrorisme. Au début, ils ont mis en place des méthodes pour diffuser leurs idées. Donc, ils ont monté des écoles hors contrat, ils ont monté des séminaires religieux, ils ont monté des méthodes de porte-à-porte. Ils ont vendu un certain nombre de livres sur les marchés. Bref, ils ont essayé de faire du militantisme de terrain. Et de 10, ils sont passés à 20, puis à 100, etc. Et sur 30 ans, ça donne ces fameuses zones de départ pour la Syrie qu'on va voir que Daesh, finalement, va révéler.
Alors, vous parlez du départ, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de départ. Il n'y a plus de lieu où aller. Le djihadisme, ce n'est pas un départ, ce n'est pas partir pour. C'est rejoindre une cause et ça peut être en restant parfaitement chez soi en France.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils appellent ça faire allégeance au système djihadiste, donc à l'idéologie, si vous voulez. Donc, c'est vrai que ces périodes de marée haute que j'évoquais, là, au moment où, en fait, il y a des campagnes de terreur qui sont menées contre l'Europe, c'est toujours quand ils sont à leur pic. Et le pic, bah, typiquement, sur la dernière décennie, c'était Daesh en Syrie, en Irak. La décennie d'avant, la décennie des années 2000, c'était l'État islamique d'Irak suite à l'invasion américaine de ce pays. Et puis, 10 ans avant, c'était l'arrivée des talibans en Afghanistan. Mais quand ils perdent ces bases arrières-là, bah les djihadistes disparaissent pas forcément pour autant. Si vous voulez, vous pouvez détruire Daesh ou Al-Qaïda autant que vous voulez, vous ne détruisez pas forcément l'idéologie. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ça, comment l'idéologie est diffusée.
Alors il faut s'y intéresser, ça c'est ce que vous faites, et il faut ensuite utiliser les bonnes armes. Est-ce qu'on a les armes ? Une fois que plus personne ne pourra dire qu'on ne sait pas, parce que votre livre il a été publié, parce que votre enquête elle a été menée, parce que désormais on sait. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on voit par exemple qu'il y a eu cette expulsion honnêtement ratée de l'imam Iqusen, l'été dernier, qui finalement a fini par partir en Belgique. Enfin, je veux dire, c'était un fiasco total. Quand on voit que certaines écoles coraniques radicalisées ont été identifiées, mais qu'on a tant de mal à les fermer, ou alors qu'elles renaissent de leurs cendres différemment sous d'autres appellations, est-ce qu'on a les armes ?
Oui, en fait, on a les armes. C'est très important de comprendre qu'on a les armes, mais à condition de s'y intéresser.
Est-ce qu'on les utilise alors, voilà, peut-être ? C'est ça la question.
En fait, il faut ni sous-estimer le djihadisme, ni sous-estimer la capacité des démocraties à répondre. Si on regarde les premiers djihadistes dans les années 90, quand ils s'implantent par exemple à Londres ou à Bruxelles, à Molenbeek, etc., ils méprisent totalement la démocratie, ils sont persuadés qu'ils vont réussir à la subvertir de l'intérieur. La réalité, c'est qu'après le 11 septembre, la plupart d'entre eux terminent en prison, et donc il y a eu une forte réaction. Mais le problème, c'est qu'il a fallu attendre des attentats. Or, je considère, et je pense pas être le seul en France, qu'on peut pas forcément s'exposer ou attendre.
N'attendons pas le drame. Voilà. N'attendons pas la prochaine marée haute.
Et donc, la nécessité, c'est de s'y intéresser maintenant, en dehors des attentats. Et pour ça, il y a plein d'outils qui existent dans le cadre de l'état de droit. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est dans le cadre de l'état de droit que la réponse va être formulée. Mais il faut aussi comprendre que la menace n'est pas que sécuritaire, elle est aussi politique et sociétale. C'est pour ça que si on ne s'intéresse qu'à la question du terrorisme, en fait, on rate tout cet amont. Et l'amont, il est politique.
Mais cet amont, on a le sentiment qu'à chaque fois qu'on le pointe du doigt, la réponse n'est que polémique. Ouais. La réponse, c'est... Et d'ailleurs, vous le dites, il y a une forme de déni de la gauche et d'hystérie de la droite sur ces sujets-là. On pense par exemple au reportage qui avait été fait à Roubaix. Au lieu de s'intéresser au fond, on s'était surtout intéressé à est-ce qu'il faut montrer, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut stigmatiser. Vous vous dites, sortons totalement de cette question-là et regardons la réalité.
Oui, déjà, premier point, il faut élargir l'espace du débat sur ce sujet. Il faut En parler, et il faut mieux en parler. Et ça, c'est à portée de main. Il y a pas que l'hystérisation et le déni qui existent. Il y a aussi, et c'est aussi le propre et la responsabilité, des individus en démocratie, que de savoir en parler. Et c'est aussi pour ça qu'on produit des travaux et qui d'ailleurs sont dans le débat pour être aussi débattus. Le deuxième point, je reviens sur ce reportage à Roubaix que vous évoquiez à l'instant. Ça, c'est typique. Et il y en a plein des exemples comme ça, mais celui-là, c'est typique. Il y a eu quand même, c'était très grave, hein, il y a eu une menace de mort contre la journaliste, il y a eu tout un pataquès, etc. Et en fait, c'est ce genre d'éléments dont on a besoin pour savoir aussi ce qui se passe. Alors, on peut mieux les faire, on peut les, encore une fois,
savez-vous
en débattre.
Savez-vous ce que c'est devenu ? C'est-à-dire, ce qui était montré dans ce reportage, c'était notamment des enfants qui, tout simplement, des petites filles qui ne peuvent pas dessiner, parce qu'elles n'ont pas le droit de dessiner les visages, des poupées sans visage, des cours de récréation, où on a beau se passionner au niveau national sur l'idée de la mixité dans les cours de récréation. Là, on en était très très loin. C'est-à-dire, c'est des petites filles qui n'ont pas le droit d'approcher les petits garçons dans la cour. Est-ce qu'il y a eu des suites ? Est-ce que l'État a répondu à ce qu'on voyait ?
Alors ça, je l'ignore totalement. Ce qui est important, c'est toujours évidemment de savoir de quel phénomène on parle. Et ce qui est frappant, je vais vous prendre un exemple très clair. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé, par exemple, à Toulouse. Toulouse, c'est une zone qui a été très touchée, la région toulousaine, le Mirail, etc., qui a été très touchée par les départs pour la Syrie. Mera, les frères Klein qui revendiquent les attentats du Bataclan et du 13 novembre. Bref, on a eu qu'est-ce que c'était que ce terreau toulousain ? C'était au début 10 individus à l'échelle de 45 000 habitants au début des années 2000. Et 10 ans plus tard, c'était une centaine d'individus. La plupart sont partis rejoindre Daesh en Syrie. Et au milieu d'eux, on trouve aussi Mera. À Roubaix, à Molenbeek, en Belgique, etc., on parle pareil de microcosmes. Mais par contre, ce sont des microcosmes qui agissent.
Qui sont actifs.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Et si on ne le fait pas, en fait, si on tourne le regard et qu'on considère que tout ça est trop problématique et qu'il convient de l'ignorer, mais il ne faudra pas non plus totalement s'étonner qu'ils utilisent cette marge de manœuvre. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est très important, encore une fois, de savoir de quoi on parle. Il faut faire une distinction entre djihadisme, évidemment, et islamisme, et entre islam et islamisme, tout ça, c'est des...
Et ça, vous le faites, honnêtement, personne ne peut vous faire ce procès, Hugo Micheron. Vous distinguez absolument, et jamais il n'y a la moindre confusion dans votre étude. Il y a pour vous, le djihadisme islamiste, et c'est celui-là qu'il faut combattre. Hugo Micheron, vous parlez aussi de moments clés, et l'Italie est un exemple passionnant dans votre livre, parce que vous avez fait une étude totalement européenne, que tous les pays... ou presque, ont été confrontés à cette question-là, et que l'Italie a su y répondre très très tôt, parce que précisément, elle n'a pas attendu les attentats, elle n'a pas attendu les départs, et elle y a presque mis fin sur son territoire.
Oui, alors, à ce sujet-là, ça mériterait même davantage de recherches, et j'invite les chercheurs qui s'intéressent à ces questions à s'intéresser au cas de l'Italie, pour vraiment pouvoir documenter de façon très précise ce qui s'est passé. Est-ce que c'est par chance ?
Donc on sait faire.
Alors,
on aurait pu savoir faire.
En fait, l'Italie avait... il s'est passé quelque chose d'important dans les années 90 parce que l'Italie a été extrêmement touchée par la mafia, l'activisme mafieux et aussi le terrorisme d'extrême gauche. Il y avait et des lois antiterroristes et des procureurs qui étaient très formés sur ces questions et qui, à un moment donné, ont su voir dans les premières cellules qui se sont organisées autour de Milan ce que pouvait être une menace d'ordre idéologique. Et c'est ça aussi...
Alors, idéologique. Mais c'est peut-être... Ça n'était pas l'acte, c'était l'idéologie.
Mais c'est... Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que les prisons en Italie, finalement, sont quand même beaucoup tenues par la mafia, et peut-être qu'il y a eu un contre-pouvoir, si vous voulez. Alors, mais c'est pas glorieux, hein. Mais il faut quand même comprendre aussi, dans les complexités, comment se manifeste un phénomène comme le djihadisme, et il faut reprendre, il faut reconsidérer l'importance des idées. Et c'est très important. Si on peut faire un autre parallèle avec un autre type de menace, hein, face auquel les démocraties européennes ont mis beaucoup de temps à comprendre le danger, c'est la menace russe. Il a fallu attendre l'invasion de l'Ukraine en 2022 pour en fait reprendre 20 ans de discours de Vladimir Poutine et de tout un tas d'officiels russes sur ce qu'ils considéraient être la faiblesse des démocraties européennes, des ennemis qu'ils désignaient comme...
La décadence des sociétés européennes, c'est le même vocabulaire. Hein.
Oui, la corruption morale, etc. Et de la même façon, les djihadistes, contrairement à ce qu'on croit, se cachent assez rarement. Hein. Vous reprenez les premiers prédicateurs dans les années 90, ils sont extrêmement explicites sur ce qu'ils pensent de la démocratie, sur ce qu'ils pensent des musulmans qui s'intègrent et qu'il faut absolument empêcher de s'intégrer. Enfin, ils ont des discours très...
D'ailleurs, leur principal ennemi, c'est les musulmans intégrés.
C'est l'altérité. c'est tout ce qui n'est pas eux. Et donc, en fait, si on comprend...
Ce qui est terrible, hein, quand on vous écoute, c'est que ce que vous nous dites avec le parallèle avec l'Ukraine et la Russie, c'est qu'au fond, vous nous dites, si on ne se réveille pas tout de suite, on peut arriver au même genre de catastrophe et à des guerres aussi immenses, totales, que ce qui arrive en ce moment.
Hein. Alors, c'est très dur de prédire, évidemment, l'avenir. Il ne s'agit pas de le faire, mais c'est vrai que si on regarde les dynamiques sur les 30 dernières années et qu'on ne s'en préoccupe pas, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre les conditions du réveil. Il faut aussi avoir cette maturité politique pour se saisir de ces enjeux et considérer sans hystérie mais sans déni que là c'est de l'ordre du politique et donc du débat public.
Vous dites l'important c'est aussi les idées et de pouvoir débattre. Il y a eu évidemment, vous l'avez vu, ce qui s'est passé avec la Sorbonne, cette chercheuse Florence Bergot-Blackler qui est chercheuse au CNRS qui a publié un livre sur les frères musulmans et sur leur entrisme dans la société française. Elle devait tenir une conférence demain soir à la Sorbonne et ça a été suspendu. Je voudrais qu'on l'écoute.
Ce qui se passe derrière cette affaire, c'est à la fois de la cancel culture, à la fois la mobilisation de l'extrême gauche et la volonté de taire le problème de l'islamisme qui est un problème très ancien. Maintenant, ça fait quand même 30 ans que je l'étudie et qui a pris des proportions absolument dramatiques. Je ne confonds pas l'islamisme et l'islam. L'islamisme, c'est d'abord les musulmans qui en subissent la pression et ensuite ça s'étend, et c'est ce que j'ai montré dans ce livre, à toute la société, à notre espace mental.
Vous dites, le plus dangereux, c'est l'oubli. Là, c'est même le silence.
Oui, alors, je laisse la teneur politique des propos de Florence. Enfin, elle a sa propre opinion de ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle quand même de quelqu'un qui est menacé de mort. Ça, je veux dire, sur le principe, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que c'est inadmissible qu'un chercheur, une chercheure au CNRS soit menacée de mort dans l'exercice de des fonctions. Ça me semble hallucinant. Et surtout en 2023, après Samuel Paty, etc. Et ça encore, faut pas faire preuve de faiblesse. Ce n'est pas normal, en fait. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette annulation. Alors depuis,
si j'ai retrouvé une date, ça serait en juin.
Ça a été reprogrammé, c'est aussi important de le dire, mais le problème, c'est qu'on est dû passer par cet événement. Est-ce que c'est du relativisme ? Est-ce que c'est finalement ne pas comprendre quels sont les enjeux ? Sur le fond, on va dire que le mal est réparé, sur le symbole, c'est quand même très fâcheux.
Il y a une forme de lâcheté aujourd'hui ? Ou de déni ?
Écoutez, c'est vraiment très dur.
De refus ?
Sincèrement, oui, le déni, c'est sûr que ça existe. Et de même que l'hystérisation. Moi, tout ce que je pense, c'est qu'on doit créer un espace central où on puisse parler de ces enjeux sereinement, sans compromis avec les faits, mais sans non plus basculer forcément dans la politisation à outrance. Mais pour autant... il faut pas non plus. Il faut voir aussi que ce sont des enjeux qui sont complexes. Je sais pas en l'état ce qui s'est passé au niveau de la Sorbonne, etc. Mais tout le monde n'a pas la même approche. Tout le monde n'a pas la bonne approche spontanément parce que tout le monde ne connaît pas forcément le phénomène. Et donc la prudence parfois amène à prendre des mauvaises décisions. Ça arrive. Tout ce qu'il faut, c'est apprendre de ça et produire au fur et à mesure.
Il y a deux points encore que je voudrais voir avec vous, Hugo Micheron. Il y a la question de la suite et notamment de ceux qui vont sortir de prison. Vous alertez là-dessus. Et puis il y a la question du rôle des femmes. Sur les sorties de prison et même sur la question de ceux qui se disent repentis. Il y a ce Français franco-turc qui s'est présenté au consulat en Turquie il y a quelques jours. Il avait fait le djihad, il a quitté la France, Nice en l'occurrence, à l'âge de 17 ans. Il avait revendiqué ensuite avoir même tué au nom d'Allah. Aujourd'hui, il se présente au consulat en Turquie. Il dit « je veux rentrer en France ». Quel regard vous portez là-dessus ?
Alors, j'ai pas d'avis sur le cas particulier. Ce que je peux dire, c'est que ça fait partie de, en fait, exactement de ce que j'évoque, c'est-à-dire ce qui se passe à marée basse. Quand typiquement Daesh a été détruit sous sa forme territoriale, eh ben il y a des individus qui ont cherché à rentrer, les mêmes qui, quand Daesh était au pic, cherchaient au contraire à se distinguer sous Daesh. Donc c'est ce genre de phénomène qu'il faut réussir à comprendre dans un schéma un peu plus général, et ce que j'essaye de faire sur la question des revenants plus largement. On a eu à peu près 350 Français incarcérés pour être rentrés de Syrie en France. Ben, à un moment donné, ils vont en sortir, et donc la question de l'après, elle se pose mécaniquement. À partir du moment, vous voyez, je me suis posé la question dans ce travail sur qu'est-ce que c'est en fait que l'inverse de l'oubli, puisque la colère, c'est ce qu'on ressent quand il y a des pics d'attentats, et l'oubli, c'est ce qu'on tend à faire, et je pense que c'est une erreur quand il n'y en a plus. Mais qu'est-ce que c'est que l'inverse de l'oubli ? C'est pas les lois mémorielles, c'est pas, il faut pas se souvenir collectivement, etc. L'inverse de l'oubli, c'est la justice. En fait, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie, elle a des outils pour se défendre, elle a un état de droit, et puis elle a une justice. Et il faut progressivement s'approprier ces questions et comprendre qu'elle s'articule avec toutes les autres. C'est pas, il n'y a pas un djihadisme d'un côté qui est l'objet d'experts. C'est une question politique comme les autres.
Un dernier mot sur les femmes, leur rôle. Vous y consacrez beaucoup d'attention dans votre étude. Les femmes, dites-vous, sont aujourd'hui des acteurs majeurs du djihadisme. Leur rôle, c'est d'éduquer les enfants, de les endoctriner. Et au fond, elles font passer le djihadisme dans le temps long, c'est-à-dire qu'elles se projettent et elles projettent le djihadisme sur les générations à venir. Et il y a eu un biais, c'est ce que vous dites, une sorte de retard à l'allumage. La justice n'a pas mesuré le rôle des femmes, presque dans une forme de sexisme à l'envers, c'est-à-dire de se dire non, mais c'est des femmes, elles n'ont pas un rôle réel, elles ne sont que des suiveuses. Vous alertez là-dessus.
Oui, parce qu'en fait, Daesh a été la première organisation djihadiste à faire une place aux femmes et à les intégrer seulement. Les femmes ne sont pas mises au front comme les hommes et à contribuer en priorité au combat. Elles sont considérées comme essentielles pour pérenniser l'idéologie sur plusieurs générations. Encore une fois, vous voyez, on en revient aux idées. Et donc, la question, c'est celle du droit.
Elles font passer le message, quoi.
Elles font passer
le message. Elles sont celles qui font passer le message.
En tout cas, c'est le rôle que leur donnent des organisations djihadistes. Donc, il faut aussi comprendre que là, on peut passer potentiellement de cellules terroristes à des cellules familiales. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut s'intéresser à la façon dont ça se structure à l'échelle des idées, à l'échelle de plusieurs générations. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, je dirais, une culture générale sur ce sujet pour pouvoir développer des antidotes, en fait.
Merci, Hugo Micheron, d'avoir éclairé. Donc, ce matin, je rappelle le titre de votre livre, La colère et l'oubli. Ça me fait penser aux mots de la mère de la première victime de Mohamed Merah, Latifa Ibn Ziaten, qui, lors du procès du frère de Mohamed Merah, avait eu ce cri d'alerte. Elle avait dit « Réveillez-vous, les Français, mon fils est mort pour rien. » Elle s'était désolée en larmes. On est trop naïfs en France. Il faut se réveiller pour protéger notre pays et pour protéger nos enfants. Vous y concourez. Merci à vous.